votre humour.
Forêt reclus à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 sur Radio Plaisance. Donc nous sommes le jeudi 26 août, c'est la reprise de l'émission, n'est-ce pas? Et nous allons voir aujourd'hui ce qui s'est passé un petit peu cet été.
Donc on va parler de l'actualité libertaire de l'été, on va dire, pour aller vite, avec d'abord une plainte d'hortefeux contre des médias libres sur Internet. En écho à l'action policière menée dans les quartiers populaires, donc c'est l'histoire de Grenoble, et c'est la plainte, les menaces judiciaires contre Indie Media Grenoble et le Jura Libertaire. Tout ça dans le contexte de la guerre déclarée aux pauvres. Et on parlera aussi d'un compte-rendu d'une rencontre estivale, comme il y en a beaucoup en France et ailleurs, quoi. Donc c'est le compte-rendu d'une semaine de rencontres à Tarnac.
Une nouvelle agression de policiers en banlieue. Une patrouille serait tombée dans un guet-apens tendu à Épinay-sur-Seine par plusieurs dizaines de jeunes.
Tout ça nous amène à notre petite série quotidienne cette semaine pour redonner un petit peu aux Français l'envie de manger du poulet.
Le quartier de Brive-la-Gaillarde, à propos d'un kilo de chichon, quelques douzaines de racailles se respectent un jour le signon. À pied, en car ou en voiture, le TS m'a inspiré à retenter l'aventure.
Or, sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol.
Le groupe accusé d'avoir incité à blesser et tuer les fonctionnaires de police et les ministres, accusé d'inciter à la haine et au racisme.
En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore sous la forme de Maccabée.
La police nationale, c'est dur à admettre qu'un policier maintenant peut se faire agresser de la sorte.
Génétique d'une belle attache, le vieux maréchal des logis, et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie.
Monsieur le ministre de l'Intérieur, dans deux jours, va se produire à Écroule dans la circonscription un groupe de rap dont les paroles, les chansons, incitent à la haine, à la violence, à bafouer la France et ses valeurs républicaines.
La plus grasse de ses femelles, couvrant son corsage dilaté, attraque à grands coups de mamelle ceux qui passent à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe est la plus belle de tous les temps.
C'est d'abord un coup de jet de pierre que quelques dizaines de jeunes s'en sont pris de policiers. La patrouille était en train d'interpeller un automobiliste qui venait d'être.
S'attaquer au rap, ça rapporte de la notoriété pour les élus, des disques vendus pour les rappeurs qui alimentent la polémique.
Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre édition de France 3 Franche-Comté. À la une de l'actualité, un blog, celui de Jura Libertaire. Depuis hier, ce site internet est dans le collimateur du ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, qui a décidé de porter plainte à son encontre. Le ministre a été choqué par des propos anti-policiers. Albert Ziri, David Martin.
Le Jura Libertaire, c'est un site internet proche de la mouvance anarchiste. Il devra rendre des comptes. Certaines de ses pages, comme celle d'un autre site dans l'Isère, ne sont pas du tout du goût du ministre de l'Intérieur.
Les policiers y sont traités, je cite, de troupes d'assassins. La BAC y est qualifiée de bande armée de criminels. Et on y parle notamment de ces poulets qui assassinent. Et là, ces insultes-là, je n'en veux plus.
Le ministre de l'Intérieur a donc déposé plainte, mais en pareil cas. La justice favorise souvent la liberté d'expression.
On peut attaquer tout le monde pour tout et n'importe quoi. On peut attaquer les guignols de l'info. On peut attaquer n'importe quel journaliste parce qu'il fait un petit dessin de Mahomet qui ne plaît pas à une communauté. Mais encore faut-il après qu'une infraction soit constituée, c'est-à-dire qu'on ait dépassé le cadre de la liberté d'expression. C'est très dangereux pour la démocratie parce que un ministre n'a pas à s'occuper de ce genre de choses à mon sens. Ça regarde le procureur de la République, territorialement compétent, s'il estime que sur Internet des blogueurs dérapent et manifestement dépassent le cadre de la liberté d'expression de la loi de 81, c'est à lui d'engager les poursuites.
Ces dernières années, aucune des procédures similaires engagées par le ministre de l'Intérieur actuel ou son prédécesseur Nicolas Sarkozy n'ont abouti à des condamnations. Elles visaient les propos de rappeurs jugés offensants pour la police.
Trop pessimiste pour être des marchands de rêve ou rentrer dans les rangs.
Oui, nous venons d'entendre donc un extrait du journal du 19-20 de France 3, Franche-Comté, qui datait du 27 juillet.
Et l'avocat qui était interrogé dans le reportage, c'est un avocat byzantin, Maître Randall Schwendorfer.
Villeneuve, un nouvel épisode de la guerre sociale.
La police tue. Le ministre de l'Intérieur souhaiterait faire condamner celles et ceux qui, comme le groupe La Rumeur, rappelle cette vérité pourtant bien banale. Cette fois, c'est à la Villeneuve, un quartier populaire de Grenoble, que ça s'est passé. Dans la nuit du 15 au 16 juillet, après le braquage d'un casino, une course-poursuite et un échange de tirs, un jeune de la Villeneuve est abattu, une balle dans la tête, au pied de son immeuble. Il semblerait que l'auteur des faits, une brute de la BAC, court toujours. Depuis, la Villeneuve s'est embrasée, une colère bien légitime, plusieurs soirs de révolte. Un quartier assiégé, une panoplie de flics déployés, RAID, GIPN, etc. Un hélicoptère éclairant la nuit et terrorisant la population.
La presse décompte les voitures brûlées et relève fidèlement l'action de communication des flics qui évoquent la légitime défense et parlent de tirs à balles réelles pour tuer du policier, avec force, image de pare-brise pété. Leur ministre effectue une visite éclair à la Villeneuve pour rappeler que l'État réagira avec fermeté et avec toujours plus de police. Dommage collatéral, le préfet de l'Isère est démissionné et remplacé par un ex-flic. Champion de la sécurité que Sarkozy vient introniser à Grenoble vendredi 30 juillet. Quant au maire de Grenoble, Michel Destot, dépité de voir l'image de sa ville technopole pour cadre, s'écorner à chaque fois que la capitale des Alpes se transforme en capitale du fait divers sanglant. Il en profite pour vendre son Grenelle de l'insécurité et ses caméras de vidéosurveillance.
La Villeneuve est un nouveau front de la guerre sociale menée contre les habitants et les habitantes des quartiers populaires. La mort comme punition pour un braqueur, un quartier assiégé comme punition collective pour tout le monde. La goutte de trop. Continuellement discriminés, stigmatisés, traités en barbares et en ennemis intérieurs, les jeunes de la Villeneuve se sont révoltés. Et à la Villeneuve, on n'est pas dupe. On ne croit pas la parole de la police dont le sens de la provocation et le racisme ordinaire ne sont plus à démontrer. Et on ne veut pas de nouvelles solutions sécuritaires aux problèmes sociaux. Déjà, la machine judiciaire a pris le relais de la machine policière pour réprimer la révolte. Dans la foulée, Hortefeux, récemment condamné pour injure raciale, porte plainte contre le Jura Libertaire et Indy Média Grenoble. Ces deux sites d'information alternatifs sont accusés de diffamation envers la police.
Le ministre de la Matraque s'en prend à celles et ceux qui se révoltent et qui osent encore s'exprimer librement pour dénoncer les violences policières. Qu'ils le fassent, nous continuerons de résister. Solidarité avec les insoumises, insoumis et les révoltés.
C'est un texte, un éditorial d'Indy Média Grenoble, paru le 29 et 30 juillet de cet été. On écoute un extrait d'émission des camarades d'Au-Fond près du radiateur, l'émission d'FPP, qui fait aussi un super travail d'information alternative. C'est l'émission du 3 août qui revient sur cette plainte.
Voilà, on continue avec ce qui s'est passé. Là, on parlait beaucoup de ce qui s'est passé à Grenoble. Il y a quand même un détail, enfin quelque chose qui n'est pas passé, enfin qui est passé assez inaperçu quand même à travers tout le battage médiatique qu'il y a eu sur Grenoble. C'est quand même lors de la venue de Hortefeux à Grenoble, hein, en visite aux policiers sur place, qui a déclaré qu'il portait plainte donc
sans les citer d'ailleurs.
Sans les citer, ouais. Voilà, c'est bien de le dire pour pas leur faire de la pub hein, non oui. Plus. Ils sont pas fous. Et puis en plus, limite s'il les cite et qu'il perd. Ça passe pas. En tout cas, il a porté plainte pour diffamation contre Indy Média et Grenoble et le Jura Libertaire, donc qui sont deux sites internet d'information, on va dire subversive, en tout cas de contre-information et qui, comme un peu nous au fond près du radiateur et Zéro Hebdo, essayons de donner un autre son de cloche que ce que les médias nous servent comme soupe actuellement. En tout cas, je vais revenir exactement sur les faits. Donc, ils sont attaqués pour diffamation. Il y a eu quand même pas de réponse officielle pour l'instant de la part de ces deux sites internet, puisque c'est quand même beaucoup des sites internet où on peut écrire un article librement et le poster librement, sous condition de modération bien sûr, parce que ça reste quand même la toile et qu'il faut pas non plus passer n'importe quelle soupe, justement pas comme les autres le font, mais en tout cas c'est quand même beaucoup des sites d'information libres et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu
libre. Il faut bien le citer parce que on a fait tout un foin avec Mediapart et tout ça, mais bon voilà, on n'est pas dans les mêmes Dans les mêmes catégories, quoi.
Pas du tout. Non. C'est-à-dire déjà qu'il n'y a aucun financement d'ordre privé, ni public, ni rien. C'est vraiment de l'information, voilà, de terrain, un peu comme nous on fait, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et justement, donc ils ont été attaqués pour diffamation sur quel mot exactement ? Sur le terme de crime policier, qui a été employé donc visiblement par ces deux sites internet, au lieu de, selon le gouvernement quand même, de bavure policière. Alors, d'abord, je voulais refaire un petit, on va pas faire de, l'étymologie, hein, mais presque, parce que une bavure policière, j'ai pas exactement la définition du dictionnaire, mais une bavure, c'est quand même pour signifier que le fait est rare, que le fait, enfin, ne doit pas, enfin, n'aurait pas dû être commis. Ce qui, en l'occurrence, dans la réalité, n'est pas vraiment le cas. J'ai pas l'impression. Enfin, j'entends beaucoup de gens qui tombent sous les balles de la police. J'entends beaucoup de noms. Enfin, même si les médias ne le relayent pas souvent, en tout cas autour de nous, on le voit. C'est pas rare ce genre de fait, et que ce soit que ça finisse par un mort, mais encore plus quand ça finit par des blessés qu'on en entend encore moins parler, parce que c'est vrai que la mort médiatise aussi, mais très souvent des tabassages, des lynchages, des plein de choses, des exactions aussi on pourrait dire, mais voilà. En tout cas, là, le terme de crime policier a été utilisé, et visiblement, oui, pour ne pas dire bavure. Et en tout cas, c'est ça qui, donc, porte atteinte à l'honneur de la police. Et donc, c'est sur ces faits-là que le ministre Hortefeux attaque en diffamation ces deux sites internet.
La police tue des mecs et ne veut pas l'admettre. C'est pour ça qu'en France, les émeutes mettent la police. trop de brutalité policière, y a trop de brutalité policière, y a trop de bavure.
Il faut interdire le port d'armes aux flics pour qu'on soit tous à égalité. Oui, il faut enlever le port d'armes aux flics.
J'ai juste envie quand même de lire trois points qui répondent clairement à cette attaque qui a été publiée donc sur le site Rebellion, qui est quand même assez clair. Voilà le taf qu'ont fait réellement le Jura Libertaire et Indy Média Grenoble. Premièrement, ils ont diffusé des témoignages d'habitants et d'habitantes de la Villeneuve qui contredisaient la version policière et médiatique, ça va de soi. Réaction et analyse d'un habitant de la Villeneuve, témoignage d'une habitante de Villeneuve et d'autres gens. Ça, c'est à lire sur les deux sites en question. Deuxièmement, ils se sont un peu moqués de la tournée d'un quart d'heure du ministre Hortefeux à la Villeneuve sur un article chronique d'un non-événement. Donc à lire aussi sur ces deux sites. Et troisièmement, ils se sont fait l'écho des premières condamnations après les émeutes, non pas en relayant la dépêche du ministère, mais en relatant la manière dont se sont déroulés les procès, avec justement des récits de comparution immédiate du 19 juillet. Voilà, ces trois points pour dire que ces gens-là ont fait vraiment un boulot qui est pour moi, en tout cas je le dis en mon nom, est exemplaire. C'est-à-dire que il s'est passé ce qui s'est passé à Grenoble, ce qui est vraiment triste, malheureux. Il y a eu la mort de ce jeune homme tué par balle par la police. Il y a eu des affrontements, des émeutes qui s'en sont suivis. Et ben ces gens-là, ils sont pas allés, comme la plupart des journalistes le font, taper à la porte de la police et demander qu'est-ce qui s'est passé, messieurs. Ils sont allés voir les habitants qui ont accès de leur fenêtre à la cour, qui ont pu voir ce qui s'est passé de soir, qui vivent aussi la provocation et l'oppression policière tous les jours de l'année, même quand il n'y a pas les médias, même quand il n'y a pas le ministre. Et ils sont allés recueillir justement les témoignages des premières personnes concernées. Et dans ce cadre-là, dans la mesure où c'est aussi ce que nous faisons en faisant cette émission, je pense Zéro Hebdo aussi, et même beaucoup de gens dans cette radio, et ben dans cette mesure-là, je pense que, en tout cas pour notre part, on peut dire, pour la part de Au Fond Près du Radiateur, qu'on est solidaire.
Et de Zéro Hebdo aussi.
Et de Zéro Hebdo.
On se doit effectivement de soutenir. Parce qu'on voit bien que cet été, les médias, on va dire, sur Internet, ont été un peu attaqués. Bon, il y a eu l'histoire de Mediapart, effectivement, l'histoire de Wirth, mais là, on voit bien qu'on monte un cran au-dessus et il n'est pas dit que demain, effectivement, les radios associatives ne soient pas concernées par ce genre de choses. Donc, effectivement, je pense qu'on doit être aussi se dire, pas seulement pour ça, mais parce que on est sur les mêmes longueurs d'onde, si on peut dire.
C'est vraiment exactement ça. Et puis, il faut se rendre compte aussi de l'importance des médias libres. Par exemple, dans la médiatisation de l'expulsion à la Courneuve, c'est-à-dire que la presse officiellement n'avait pas été invitée à filmer cette expulsion. Parfois, elle est invitée. Par exemple, à Villiers-le-Bel, quand on vient perquisitionner à 6h du matin.
On vient dans les valises de la presse, de la police. Ouais.
Là, par contre, il y a la presse qui est là. Quand ça arrange bien les flics, en tout cas, elle est là. Ouais. Là, ça les arrangeait pas. Ouais. Donc, ils les ont pas appelés. Ouais. Néanmoins, il y a quand même un gars qui est venu, qui avait une caméra et qui n'était pas journaliste officiel ou qui n'était pas je sais pas quoi, et qui a filmé ce qui s'est passé dans le but de relayer surveiller ce que personne n'allait faire.
Et pour refermer après la parenthèse de ça, c'est-à-dire qu'en plus la préfecture a déclaré que ça s'était passé dans le calme.
Oui, oui, oui. Donc voilà, c'est vraiment donc d'où l'importance des médias libres et d'où voilà la connivence qu'on peut avoir avec ces sites internet et avec d'autres médias libres. Et donc pour l'instant, il n'y a pas encore de date de procès pour concernant l'attaque en diffamation donc du Jura Libertaire et d'Indie Média Grenoble. En tout cas, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller quand même consulter ces sites internet parce qu'il y a souvent et très souvent des bonnes informations qu'il faut surtout faire tourner et bah voilà le maximum possible. C'est là où on voit quand même l'importance d'avoir une contre-information, surtout quand on a des gens aussi rodés que ça en face. Faut vraiment lutter et les médias, et c'est aussi un terrain de lutte, c'est aussi un chantier, et faut pas l'oublier. Faut surtout faire avec, et faut surtout créer sa propre information, faire sa contre-information et garder l'esprit libre et pas se faire bouffer par tous ces appareils et toute cette soupe médiatique qu'on nous... Bah voilà, j'ai envie de conclure par le soutien aux deux sites internet, ouais, le Jura Libertaire,
big up.
Grenoble Indie Media et même tout le réseau Indie Media hein, qui lutte pour avoir une information libre et une contre-information.
La police. Pareil que t'as une matraque si je fais le profil psychologique de fond, c'est un pénis de substitution. Parce que t'as une petite. Écoute mon beat. Contrôle de faf. Et t'as vu, il bosse fort. Si tu cherches du taf et que ça phosphore dans ta tête, pourquoi pas faire partie des assassins analphabètes? Test à faire afin de porter une arme. Si t'es con comme un âne, il t'offre un revolver dans la police nationale. Auto-suicidaire, envié par le temple solaire. Soulard et médiocre en milieu scolaire. Ils ont raté leur vie pour mieux pas rater mes frères qu'ils enferment. Après un procès théâtral au tribunal de correction, objection, votre horreur, que le procureur se taise. Je suis l'avocat, mayonnaise, crevette d'Afrique. Traiter un flic de con n'est pas un outrage, mais un diagnostic. Tous des frustrés dans leur slip de pas connaître de meuf mignonne, jusqu'à violer leurs collègues à l'aide de la drogue, du viol. C'est ce qu'on nomme du poulet aux hormones, fier de porter l'uniforme qui les venge de pas vraiment être des hommes. Et frère, la police enrôle. Maintenant tu sais quoi faire si tu travailles mal à l'école. Et frère, la police recrute. Et la sélection débute, un alphabet et préférence des fils de chut. Et frère, la police enrôle. Maintenant tu sais quoi faire si tu travailles mal à l'école. Et frère, la police recrute. Et la sélection débute, un alphabet et préférence des fils de chut.
Scott, no money coming on. I've got no sherry and got no teeth like a monkey in front of Walby. Thank you.
là c'est una calamité. On déceau qui s'éclaissait à l'élection et à l'élevis. Bien au désert, j'ai crevé que sans me voir extasié de flanc. Et des doigts qui m'affrontaient à tel point on peut vivre des chemins sans fin. Chemins sans fin.
Forêt reclue à l'Élysée sur Radio Péril 203.org. Ça va bientôt changer d'ailleurs, il y aura un nouveau site tout neuf. Et bien sûr sur l'audioblog, donc c'est audioblog.arteradio.forêtreclue à l'Élysée. Tout est attaché et bien sûr il n'y a pas d'accent et c'est tout en minuscule.
On vient d'écouter Fantasio, le grand.
N'est-ce pas? Donc, depuis les moyennes montagnes du Limousin.
Durant une semaine cet été, à Tarnac, 200 personnes se sont réunies. De leur discussion a émergé, entre autres choses, le communiqué suivant.
Il se lève et dit « La contre-insurrection n'est pas seulement la doctrine d'intervention des armées occidentales en Afghanistan. C'est la nature même de tout gouvernement. » La mise en circulation de tel ou tel élément de langage, l'urbanisme, la distraction organisée, les fables de l'économie, tout provient de la crainte de perdre le contrôle des populations. Elle lui répond « Chez nous, le gouvernement a tellement peur, avec la crise, que les gens commencent à s'organiser par eux-mêmes, qu'il contraint les chômeurs à faire des ateliers de réparation gratuite de vélos dans la rue, à récupérer les objets usagés et à patrouiller avec la police. On occupe le terrain préventivement. »
Quelques heures plus tard, une fournée de pain plus loin, un autre. « Moi, ce qui m'étonne depuis l'automne 2008, c'est qu'une telle crise du capitalisme ait suscité à ce jour, hormis en Grèce, si peu de mouvements. Il y a 10 ans, il y avait tout un mouvement anti-globalisation qui attaquait le système, alors que celui-ci se portait plutôt bien. Et maintenant que tout donne raison à ce mouvement, il n'y a rien qui se lève et si peu qui se tente. Que dans ces moments, chacun se cramponne à sa position sociale menacée est bien compréhensible, mais que militants et activistes restent confortablement installés dans leur rôle social minoritaire, qu'au lieu de s'interroger sur leur soudaine paralysie, ils préfèrent considérer que tout leur donne raison et qu'ils n'ont qu'à continuer à parfaire leur posture radicale sur les sites web spécialisés ou à siroter leur bière à la terrasse des cafés branchés, voilà ce qui est proprement hallucinant.
Une autre encore. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de travail. La seule chose à faire, c'est de nous approprier les techniques et les moyens de survivre. Et non seulement de survivre, mais de vaincre. Bien sûr, il y a une police globale qui est payée pour protéger cette immense tristesse qui a reçu le nom d'économie. Et cette sorte de conspiration de la bêtise que l'on appelle capitalisme, c'est évidemment une grande opération sémantique que de nommer terroristes ceux qui ont encore le front de se réunir internationalement pour chercher des réponses aux questions que tout le monde se pose, mais isolément, chacun chez soi.
Comment ne pas se laisser affamer par les gouvernements? Comment défaire l'engrenage policier mondial? On peut bien nous traiter en terroristes, cela ne sert à rien. Il est évident qu'il n'y a pas de nous. N'importe qui se retrouverait comme nous le faisons ces jours-ci, se poserait les mêmes questions et arriverait sans doute aux mêmes réponses. Il faut former partout, non pas des assemblées constituantes pour représenter le peuple, mais des assemblées locales, pour arracher aux structures et aux dispositifs de pouvoir tout ce qui rend la vie possible et qu'ils ont capturé. Les moyens matériels autant que l'aptitude à communiquer et la capacité à nous défendre aussi. Nos vies sont la matière première de leur pouvoir. Si nous les reprenons, si nous cessons de demander la permission, si nous réglons nos affaires par nous-mêmes, si nous nous organisons d'égal à égal pour rompre les dépendances qui nous affligent, aucune lutte contre la folie régnante ne pourra plus être amenée à l'autogestion de la misère.
Et celui-ci, là, devant, qui vient d'arriver. Si l'on regarde les cycles économiques en Occident depuis 40 ans, on se rend compte que c'est une alternance de crises et de reprises, de crises toujours plus fortes ou de reprises toujours plus faibles. L'effondrement actuel n'est pas circonstanciel, il est durable. Et celle-ci qui dit le dernier jour. Il faut qu'on fasse un communiqué pour dire à tous ceux dans le monde qui ne sont pas résignés à l'horizon du désastre que nous nous sommes retrouvés, que nous ne cédons pas à la peur, que les campagnes d'intimidation menées sous couvert d'antiterrorisme échoueront finalement dans le grotesque, que le moment est venu de quitter toute position défensive.
C'est une étrange assemblée. 200 personnes, des gens de partout en Europe et de plus loin encore. Difficile de dire ce qui les réunit là, à Tarnac, pour cette semaine de travaux, de discussions dans toutes les langues et de fêtes. Pour cette semaine de vie commune, studieuse, enivrée, joyeuse. Il faut être un peu fou, éprouver une inexpiable confiance dans l'avenir de la révolte, ou se foutre complètement des manigances policières pour décider d'aller se réunir là, dans un des lieux les plus grillés de France et y deviser sérieusement sur les possibilités révolutionnaires du présent. C'est donc ce que nous avons fait. Nous savons que de nouvelles rafles se préparent dans ce que les services de renseignement et les gens mal renseignés nomment l'ultra-gauche. On ne nous acculera ni à la clandestinité, ni à la retraite. Nos raisons sont dans toutes les têtes et nos aspirations dans tous les cœurs.
Du fond de la grange, une voix commente. Vous nous réprimez. Vous nous renforcez. Vous ne nous réprimez pas, nous nous renforçons. Seigneur de ce monde, vous êtes cuit.
On va se quitter en écoutant la mise en musique d'un texte de Stieg Dagerman. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Et on revient le 9 septembre avec une émission sur la guerre faite aux Roms déclenchée cet été.
Au revoir et à dans 15 jours donc, ou sur le blog de l'émission. Voilà, et cette émission est rediffusée dimanche à midi.
Et merci à Fabrice.
Pour la technique.
Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux. car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses de Sioux, du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute comme si celui-ci n'était pas lui aussi entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même car je suis bien certain d'une chose, le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir dans la forêt, je tire. Souvent je n'atteins que le vide, mais une fois de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime. Qu'ai-je alors entre mes bras ? Puisque je suis solitaire, une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux, puisque je suis poète, un arc de mots que je ressens de la joie et de l'effroi à bander, puisque je suis prisonnier, un aperçu soudain de la liberté, puisque je suis menacé par la mort, un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique, puisque je suis menacé par la mer, un récif de granit bien dur. Mais il y a aussi des consolations qui viennent à moi sans y être conviées et qui remplissent ma chambre de chuchotements odieux. Je suis ton plaisir, aime-les tous. Je suis ton talent, fais-en aussi mauvais usage que de toi-même. Je suis ton désir de jouissance, seuls vivent les gourmets. Je suis ta solitude, méprise des hommes. Je suis ton aspiration à la mort, alors tranche. Le fil du rasoir est bien étroit. Je vois ma vie menacée par deux périls. D'un côté par les bouches avides de la gourmandise. De l'autre, par l'amertume de l'avarice qui se nourrit d'elle-même. Mais je tiens à refuser de choisir entre l'orgie et l'ascèse, même si je dois pour cela subir le supplice du grill de mes désirs. Pour moi, il ne suffit pas de savoir que, puisque nous ne sommes pas libres de nos actes, tout est excusable. Ce que je cherche, ce n'est pas une excuse à ma vie, mais exactement le contraire d'une excuse, le pardon. L'idée me vient finalement que toute consolation, ne prenant pas en compte ma liberté, est trompeuse, qu'elle n'est que l'image réfléchie de mon désespoir. En effet, lorsque mon désespoir me dit « perds confiance », car chaque jour n'est qu'une trêve entre deux nuits, la fausse consolation me crie « espère », car chaque nuit n'est qu'une trêve entre deux jours. Mais l'humanité n'a que faire d'une consolation en forme de mots d'esprit. Elle a besoin d'une consolation qui illumine. Et celui qui souhaite devenir mauvais, c'est-à-dire devenir un homme qui agisse comme si toutes les actions étaient défendables, doit au moins avoir la bonté de le remarquer lorsqu'il y parvient. Personne ne peut énumérer tous les cas où la consolation est une nécessité. Personne ne sait quand tombera le crépuscule et la vie n'est pas un problème qui puisse être résolu en divisant la lumière par l'obscurité et les jours par les nuits. C'est un voyage imprévisible entre des lieux qui n'existent pas. Je peux, par exemple, marcher sur le rivage et ressentir tout à coup le défi effroyable que l'éternité lance à mon existence dans le mouvement perpétuel de la mer et dans la fuite perpétuelle du vent. Que devient alors le temps, si ce n'est une consolation pour le fait que rien de ce qui est humain ne dure? Et quelle misérable consolation qui n'enrichit que les Suisses! «
Je peux rester assis devant un feu dans la pièce la moins exposée de toutes au danger et sentir soudain la mort me cerner. Elle se trouve dans le feu, dans tous les objets pointus qui m'entourent, dans le poids du toit et dans la masse des murs. Elle se trouve dans l'eau, dans la neige, dans la chaleur et dans mon sang. Que devient alors le sentiment humain de sécurité, si ce n'est une consolation pour le fait que la mort est ce qu'il y a de plus proche de la vie? Et quelle misérable consolation qui ne fait que nous rappeler ce qu'elle veut nous faire oublier. Je peux remplir toutes mes pages blanches avec les plus belles combinaisons de mots que puisse imaginer mon cerveau, étant donné que je cherche à m'assurer que ma vie n'est pas absurde et que je ne suis pas seul sur la terre. Je rassemble tous ces mots en un livre et je l'offre au monde. En retour, celui-ci me donne la richesse, la gloire et le silence. Mais que puis-je bien faire de cet argent? Et quel plaisir puis-je prendre à contribuer au progrès de la littérature? Je ne désire que ce que je n'aurais pas. Confirmation de ce que mes mots ont touché le cœur du monde. Que devient alors mon talent, si ce n'est une consolation pour le fait que je suis seul? Mais quelle épouvantable consolation qui me fait simplement ressentir ma solitude 5 fois plus fort. Je peux voir la liberté incarnée dans un animal qui traverse rapidement une clairière et entendre une voix qui chuchote « Vis simplement, prends ce que tu désires et n'aie pas peur des lois ». Mais qu'est-ce que ce bon conseil, si ce n'est une consolation pour le fait que la liberté n'existe pas? Et quelle impitoyable consolation pour celui qui s'avise que l'être humain doit mettre des millions d'années à devenir un lézard. Pour finir, je peux m'apercevoir que cette terre est une fosse commune dans laquelle le roi Salomon, Ophélie et Himmler reposent côte à côte. Je peux en conclure que le bourreau et la malheureuse jouissent de la même mort que le sage, et que la mort peut nous faire l'effet d'une consolation pour une vie manquée. Mais quelle atroce consolation pour celui qui voudrait voir dans la vie une consolation pour la mort. Je ne possède pas de philosophie dans laquelle je puisse me mouvoir comme le poisson dans l'eau ou l'oiseau dans le ciel. Tout ce que je possède est un duel, et ce duel se livre à chaque minute de ma vie entre les fausses consolations qui ne font qu'accroître mon impuissance et rendre plus profond mon désespoir, et les vrais qui me mènent vers une libération temporaire. Je devrais peut-être dire la vraie, car à la vérité, il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle. Celle qui me dit que je suis un homme libre, un individu inviolable, un être souverain à l'intérieur de ses limites. Mais la liberté commence par l'esclavage et la souveraineté par la dépendance. Le signe le plus certain de ma servitude est ma peur de vivre. Le signe définitif de ma liberté est le fait que ma peur laisse la place à la joie tranquille de l'indépendance. On dirait que j'ai besoin de la dépendance pour pouvoir finalement connaître la consolation d'être un homme libre. Et c'est certainement vrai. À la lumière de mes actes, je m'aperçois que toute ma vie semble n'avoir eu pour but que de faire mon propre malheur. Ce qui devrait m'apporter la liberté m'apporte l'esclavage et des pierres en guise de pain. Les autres hommes ont d'autres maîtres. En ce qui me concerne, mon talent me rend esclave au point de ne pas oser l'employer, de peur de l'avoir perdu.
De plus, je suis tellement esclave de mon nom que j'ose à peine écrire une ligne de peur de lui nuire. Et lorsque la dépression arrive finalement, je suis aussi son esclave. Mon plus grand désir est de la retenir. Mon plus grand plaisir est de sentir que tout ce que je valais résidait dans ce que je crois avoir perdu. La capacité de créer de la beauté à partir de mon désespoir, de mon dégoût et de mes faiblesses. Avec une joie amère, je désire voir mes maisons tomber en ruine et me voir moi-même enseveli sous la neige de l'oubli. Mais la dépression est une poupée russe, et dans la dernière poupée se trouve un couteau, une lame de rasoir, un poison, une eau profonde et un seau dans un grand trou. Je finis par devenir l'esclave de tous ces instruments de mort. Ils me suivent comme des chiens, à moins que le chien ce ne soit moi. Et il me semble comprendre que le suicide est la seule preuve de la liberté humaine. Venant d'une direction que je ne soupçonne pas encore, voici que s'approche le miracle de la libération. Cela peut se produire sur le rivage, et la même éternité qui tout à l'heure suscitait mon effroi est maintenant le témoin de mon accession à la liberté. En quoi consiste donc ce miracle ? Tout simplement dans la découverte soudaine que personne, aucune puissance, aucun être humain n'a le droit dénoncer envers moi des exigences telles que mon désir de vivre vienne à s'étioler. Car si ce désir n'existe pas, qu'est-ce qui peut alors exister ? Puisque je suis au bord de la mer, je peux apprendre de la mer. Personne n'a le droit d'exiger de la mer qu'elle porte tous les bateaux, ou du vent qu'il gonfle perpétuellement toutes les voiles. De même, personne n'a le droit d'exiger de moi que ma vie consiste à être prisonnier de certaines fonctions. Pour moi, ce n'est pas le devoir avant tout, mais la vie avant tout. Tout comme les autres hommes, je dois avoir droit à des moments où je puisse faire un pas de côté et sentir que je ne suis pas seulement une partie de cette masse que l'on appelle la population du globe, mais aussi une unité autonome. Ce n'est qu'en un tel instant que je peux être libre vis-à-vis de tous les faits de la vie qui, auparavant, ont causé mon désespoir. Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se soucie peu de moi. Mais qui me demande de me soucier de l'éternité ? Ma vie n'est courte que si je la place sur le bio du temps. Les possibilités de ma vie ne sont limitées que si je compte le nombre de mots ou le nombre de livres auxquels j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir. Mais qui me demande de compter ? Le temps n'est pas l'étalon qui convient à la vie. Au fond, le temps est un instrument de mesure sans valeur, car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie. Mais tout ce qui m'arrive d'important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu, la rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau, une aide au moment critique, le spectacle du clair de lune, une promenade en mer à la voile, la joie que l'on donne à un enfant, le frisson devant la beauté, tout cela se déroule totalement en dehors du temps, car peu importe que je rencontre la beauté, l'espace d'une seconde ou l'espace de 100 ans, non seulement la félicité se situe en marche du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. Je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps, et par la même occasion celui des performances que l'on exige de moi. Ma vie n'est pas quelque chose que l'on doive mesurer. Ni le saut du cabri, ni le lever du soleil ne sont des performances. Une vie humaine n'est pas non plus une performance.
mais quelque chose qui grandit et cherche à atteindre la perfection. Et ce qui est parfait n'accomplit pas de performance. Ce qui est parfait œuvre en état de repos. Il est absurde de prétendre que la mer soit faite pour porter des armadas et des dauphins. Certes, elle le fait, mais en conservant sa liberté. Il est également absurde de prétendre que l'homme soit fait pour autre chose que pour vivre. Certes, il approvisionne des machines et il écrit des livres, mais il pourrait tout aussi bien faire autre chose. L'important est qu'il fasse ce qu'il fait en toute liberté et en pleine conscience de ce que, comme tout autre détail de la création, il est une fin en soi. Il repose en lui-même comme une pierre sur le sable. Je peux même m'affranchir du pouvoir de la mort. Il est vrai que je ne peux me libérer de l'idée que la mort marche sur mes talons, et encore moins nier sa réalité. Mais je peux réduire à néant la menace qu'elle constitue en me dispensant d'accrocher ma vie à des points d'appui aussi précaires que le temps et la gloire. Par contre, il n'est pas en mon pouvoir de rester perpétuellement tourné vers la mer et de comparer sa liberté avec la mienne. Le moment arrivera où je devrai me retourner vers la terre et faire face aux organisateurs de l'oppression dont je suis victime. Ce que je serai alors contraint de reconnaître, c'est que l'homme a donné à sa vie des formes qui, au moins en apparence, sont plus fortes que lui. Même avec ma liberté toute récente, je ne puis les briser, je ne puis que soupirer sous leur poids. Par contre, parmi les exigences qui pèsent sur l'homme, je peux voir lesquelles sont absurdes et lesquelles sont inéluctables. Selon moi, une sorte de liberté est perdue pour toujours. Une sorte de liberté est perdue pour toujours ou pour longtemps. C'est la liberté qui vient de la capacité de posséder son propre élément. Le poisson possède le sien, de même que l'oiseau et que l'animal terrestre. Thoreau avait encore la forêt de Walden, mais où est maintenant la forêt où l'être humain puisse prouver qu'il est possible de vivre en liberté, en dehors des formes figées de la société? Que je ne me laisse pas écraser par le nombre. Je suis moi aussi une puissance, et mon pouvoir est redoutable tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde. Car celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Mais ma puissance ne connaîtra plus de bornes le jour où je n'aurai plus que mon silence pour défendre mon inviolabilité. Car aucune hache ne peut avoir de prise sur le silence vivant. Telle est ma seule consolation. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes. Mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige. Une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie. C'est-à-dire une raison de vivre.